clôturer donc cette émission. On te souhaite une bonne soirée, Max, et puis on se dit
bonne soirée à toi aussi.
On se redit à la semaine prochaine. On sera tous les deux là présents, et puis après on retrouvera Yann pour les deux dernières émissions, et puis nous on sera en alternance sur ces deux émissions là. On va pouvoir donc enchaîner tout de suite avec le générique. Je vous souhaite une bonne fin de mardi, et puis on se dit à la semaine prochaine.
Vous êtes sur Radio G pour l'émission Imaginaire jusqu'à 22h.
Au 101.5.
Voilà, avec Pierre-Marie dans mon jardin.
Oui, on avait besoin de faire une interview, enfin un enregistrement bucolique, puisque le livre que je vais vous présenter, La Complainte de Forenza, se base sur une ville imaginée, mais dont la religion est à travers les plantes et les fées. Donc dans ton jardin, je trouvais que c'était un cadre qui pouvait correspondre parfaitement.
On entend quand même la 4 voix qui traverse Angers, hein.
Oui,
à nouveau.
Voilà.
On aura aussi une chronique de Bess qui nous parlera
de Anna de Luc Besson
en mâle.
Le personnage d'Anna à travers le film Anna de Luc Besson.
Et puis une chronique de Julien qui nous parlera de la bande dessinée de Fabien Nury et Bruno sortie la semaine dernière qui s'intitule L'homme qui tua Chris Kyle, je crois, c'est ça.
Ah ouais, c'est ça.
Et puis on s'écoutera aussi l'interview de Katie Stewart que tu avais rencontrée aux Utopiales.
Tout à fait.
En novembre dernier.
Où j'avais fait un focus avec elle pour son livre Confession d'une sorcière qui était paru chez Mu Édition qui a changé toutes ses couvertures et qui réédite tous ses livres puisqu'ils ne sont pas seuls dans le catalogue de Mnemos.
D'accord.
Je veux absolument parler, et ce qui me permettra de présenter un des événements du Salon Imaginaire 2020, c'est la...
Est-ce qu'on peut donner la date?
Non, pour l'instant, ça reste un secret. La date, elle sera annoncée lors de la dernière émission de juin, mais pour l'instant, pour des raisons de pratique, on n'annonce pas.
Est-ce que vous pouvez annoncer la salle?
Retour au Salon Pionski, donc pour une édition qui nous permettra de lancer le premier prix imaginaire que nous avions prévu pour le mois de mai, et donc avec la présence de Sarah Doc, puisqu'il s'agit du prix Heyerdahl. Sarah Doc, compagne de Feu Heyerdahl.
Et donc prix qui sera remis à Jean-Marc Ligny.
À Jean-Marc Ligny, tout à fait. Ça, je crois qu'on l'avait déjà annoncé, martelé.
Mais on l'aura dit.
On l'aura dit.
Et Jean-Marc, on avait déjà reçu au Salon Kurnonski.
Il y a 3 ans.
Ouais, quelque chose comme ça.
En 2017.
Alors, donc...
Alors, Sarah Doc n'est pas que la compagne de Feu Heyerdahl. Elle a une vie littéraire riche à côté, puisqu'elle est traductrice, elle est chroniqueuse, elle est novelliste, elle est romancière. Et là, je tombe sur son deuxième bouquin. Le premier était sorti chez Mu Édition. Celui-ci est chez Léa Édition et il s'appelait La Complainte de Forenza. Dans la mouvance très pro-féministe, tout de même, c'est un roman qui se passe dans la ville imaginée de Florence Forenza.
Pas Florence Foresti.
Pas Florence Foresti, mais bravo, blague de merde. Pour une fois que c'est pas moi qui l'ai fait. Donc Florence à la Renaissance, la ville capitale des arts. Là on rentre sur une partie imaginée de Forenza où c'est assez intemporel, on ne sait pas trop quand est-ce que ça se passe. Il y a eu des guerres, les hommes sont partis à la guerre, il y a eu beaucoup de morts, les femmes ont remplacé les hommes, comme dans à peu près toutes les nations qui sont en guerre, les femmes prennent la place des hommes pour combler les trous, les manques. Et elles aiment beaucoup cette liberté qu'elles acquièrent et puis leur autonomie, leur émancipation, et elles décident de le garder alors que la guerre est finie et ça ne convient pas aux hommes. Et donc on va suivre une intrigue imbriquée, puisqu'il y a deux intrigues qui s'entremêlent, toutes les deux. La première, ça va être une histoire de polar sur fond assez religieuse et artistique, puisque, comme je vous le disais en introduction, c'est une ville qui a une religion païenne qui vénère la nature, et notamment des fées qui sont les personnes qui aident à la nature. Et il y a des meurtres qui se passent dans cette ville-là, où l'assassin tue des modèles et peint leur mise à mort, ce qui normalement est interdit par la religion. Soit on a le droit de peindre le réel, on a le droit de peindre la nature, mais on ne peint pas la mort. On peint la créativité, mais on ne peint pas la mort.
Ah, peut-être que le meurtre est interdit tout court, non, dans ce monde?
Oui, mais pas plus que d'autres. Là, il y a le meurtre qui est interdit, et il y a sa représentation qui est un blasphème.
D'accord.
Donc, il y a une double intrigue. Et donc, on va suivre Aphrodisia Malatesta, qui est une enquêtrice, fille d'une des plus grandes peintres de cette ville-là, qui a refusé d'aller vers les arts et qui s'est tournée vers le droit et qui va faire cette enquête-là. Alors, après discussion avec Sarah Doc, puisque la chronique, j'en ai déjà fait la chronique que vous trouverez sur notre site imaginaire.fr, j'ai discuté avec Sarah Doc de ce personnage-là que je ne connaissais pas du tout. Il faut savoir que dans ce livre-là, il y a beaucoup de personnages féminins qui sont juste, pas juste, mais qui sont des artistes masculins qu'elle a retourné.
Enfin, d'accord.
On y retrouve Léonard de Vinci, par exemple, qui a un autre nom.
Léonarda.
Presque.
Non, je sais pas.
Mais Davini, je crois que c'est Léonard Davini. Bref, il y en a plusieurs, mais ce sont que des grands artistes de la Renaissance de Florence qui sont mis en femme. Par contre, le seul personnage chez qui elle ne fait pas le retournement de sexe, c'est Aphrodisia Malatesta, qui est une réelle peintresse que je ne connaissais pas, qui revient un peu au bout du jour et qui a notamment défrayé la chronique puisqu'elle s'était faite violer par un des apprentis de son père et elle a osé en parler et aller devant l'inculquer en justice et au final c'est elle qui a été jugée par la vindicte populaire parce qu'elle n'avait pas parlé de ce viol-là. Donc c'est quand même un personnage qui est relativement important dans la Renaissance italienne pour l'émancipation des femmes et malheureusement pour la mauvaise publicité qu'il y avait à propos de ça. Donc ça c'est vraiment la première intrigue où on est vraiment sur le fond des arts, sur la fond spiritualité religieuse et c'est vraiment c'est l'intrigue qui est la plus lente autant en narration que dans l'histoire puisque ça se passe sur vraiment plusieurs jours où Aphrodisia voit un meurtre, y réfléchit, dort le soir, enfin on n'arrive pas à dormir, mais vraiment ça prend beaucoup de temps et une énorme partie de cette intrigue est liée à la description. Les villas où ça se passe, les tableaux qu'il y a, ce qu'elle y voit, ce qu'elle y sent, il y a vraiment un aspect extrêmement descriptif et extrêmement sensoriel où tous les sens que notre personnage vit ont essayé d'être transcrits pour le lecteur. Et à côté de ça, on a Martin, qui est un mercenaire, on ne sait pas trop d'où il vient, mais il arrive à Forenza, il a suivi un autre groupe de mercenaires qui n'était pas le sien, il arrive à Forenza, et il découvre cette ville-là à travers les yeux d'un étranger, donc ce qui est vachement pratique pour le lecteur, puisqu'on découvre l'histoire de Forenza, pourquoi est-ce que les femmes ont une place aussi émancipée, aussi improbable. Et lui, en fait, ce personnage-là, c'est une sorte d'allégorie de notre monde. C'est l'auteur a voulu placer une ville féminine, et lui, c'est le personnage qui représente notre monde et qui découvre cette possibilité-là. Avec tout le regard qu'on pourrait avoir en se disant, mais des femmes qui sont émancipées, qui n'ont pas peur de rentrer tard le soir, seules ou accompagnées, écouter de la musique, qui peuvent s'habiller comme elles veulent sans avoir de crainte, c'est quelque chose qu'on aurait du mal à regarder. Donc il y a cette ambition de Sarah de créer une sorte d'utopie féministe sans être un parti pris militant. On n'est pas en train de marteler tout ce qui va mal dans notre monde et puis voilà comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ça se passe bien. Non, elle nous met un monde qui marche en tant que tel. Et elle nous présente un personnage qui nous permet de nous poser la question pourquoi est-ce que ça marche mal chez nous. Mais s'il n'y a pas un côté militant. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Voilà. C'est le premier bouquin que je voulais vous présenter.
Ok, puis jolie couverture de Philippe Joselon.
Je ne connais pas. Chez Léa Édition, que vous pouvez trouver dans n'importe quelle librairie digne de ce nom.
Alors, le deuxième bouquin, Christophe Lambert.
Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu du Christophe Lambert.
Rien à voir avec le comédien, hein. Christophe Lambert, non, l'écrivain.
Tout à fait.
Orienté jeunesse, non?
C'est ça.
C'est exactement, imaginaire jeunesse.
C'est exactement pour ça que ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu du Christophe Lambert. Oui. Il s'adresse en général plutôt vers du 14-15 ans. Et là, Christophe Lambert, il n'a pas écrit il a écrit quelque chose d'inédit, mais ça ne sort pas de son esprit. C'est un livre qui se base sur des jeux de société Time Stories. Je vous avais fait la chronique de Time Stories dans l'émission.
C'est venu présenté dans l'émission il y a 2 ans, je crois.
À la sortie, tout à fait. Et là, on lui a proposé d'écrire, puisque la première saison de ce jeu de société, c'est fini. Alors ce jeu de société, c'est un jeu de rôle en plateau où en fait on a une quête. Au début, on nous présente une quête. Nous sommes des agents temporels, nous sommes dans le futur, on a une quête, il faut les réparer, une sorte de faille temporelle. On se retrouve dans le passé avec des personnes qui ont réellement existé, qui sont des illustres inconnus, mais on part du principe qu'elles ont réellement existé, et nous prenons la place de ces personnes-là. Et nous leur faisons vivre des aventures pour réparer le temps. Ce qui fait qu'en fait, chaque scénario est à une époque différente. Et en fait, il y a une intrigue sous-jacente à chacun des scénarios, mais qu'on voit de très très loin. C'est-à-dire, on le voit au tout début quand on vous explique la mission, on le voit au milieu avec les interactions des protagonistes, et on le voit à la fin sur le résumé de la mission, où en fait, notre agence temporelle se bat contre une autre agence qui essaie de modeler le temps. Mais on n'y touche pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui ne nous intéresse pas. Sauf que voilà, à la fin de la première saison, ça devient l'enjeu principal, cette lutte entre ces deux agences-là. Et il fallait quelque chose qui puisse faire le lien entre la première saison qui était du pur divertissement avec une deuxième saison qui est quand même un peu plus speed. Là, on rentre vraiment sur une campagne en tant que telle. Et donc, ça a été le travail de Christophe Lambert qui a fait ce livre, Time Stories, le dossier Hayden, chez Bragelonne Edition. Qui nous présente donc Hayden, qui est une fille qui est en hôpital psychiatrique en 2014, qui est récupérée par l'agence, qui va suivre l'entraînement et qui va devenir un agent temporel. Donc on retrouve des personnages importants dans le... Par exemple Bob, qui est le superviseur de l'agence, Laura, qui est l'intelligence artificielle, et puis d'autres personnes qu'on rencontre très très éphémèrement au fil des aventures. Et on va suivre cette jeune fille dans comment est-ce qu'elle rentre dans l'agence, les missions qu'elle va y faire, et puis la remise en question de cette même agence avec l'opposition à la deuxième agence qu'on découvre un petit peu. Et ce livre fait donc le lien. Alors il n'est pas nécessaire de l'avoir lu pour pouvoir jouer au jeu de société, soit la première saison, soit la deuxième saison, mais ça rapporte une sorte de relief à l'univers étendu.
Ok. Donc Pierre-Marie, on se retrouve dans 2 semaines sur le 101.5 pour la dernière émission de cette saison. Et puis avant la rentrée dans les studios de Radio G, on espère, tous les mardis, paire de 21h à 22h. Get away from her, you bitch! I know my value. Anyone else's opinion doesn't really matter. Mary Poppins, practically perfect in every way. Spoilers. Oh putain. Putain, je suis fatiguée là. Ouais, là je vais vous dire, je vous aime. Vraiment. Vous le savez. Vous le savez que des fois je regarde même des films pourris qui ont une héroïne pour vous en tirer le portrait. Des films de Luc Besson par exemple. Et ce mec s'arrête jamais. Il a encore commis une bouse avec une femme comme personnage principal. Après Angela. Après Lucie, voici Anna. Allez, faisons un effort d'imagination tous ensemble. Fermez les yeux. Pensez à une femme intelligente, forte, mais qui a une vie de merde dans les années 90 à Moscou. Et puis soudain, miracle, on la recrute au KGB. Elle devient tueuse, mais sous une super couverture, mannequin international. Jusqu'à ce que la CIA la recrute comme agent double. Puis de nouveau le KGB comme agent triple. Et puis tiens, comme on a de l'imagination, on va dire que non seulement elle déchire comme mannequin, mais qu'en plus c'est une redoutable tueuse avec un tas de skills. Et surtout, alors que tout le monde croit la manipuler, elle va niquer tout ce beau monde et partir se la couler douce à Hawaï. Vous l'avez là le tableau ? Bah c'est sûrement ce qui a dû se passer par la tête de Luc Besson quand il a écrit son film. Alors bien sûr, il y a la façon dont Besson a imaginé son personnage féminin. Il doit sûrement être très fier de lui. Une jeune femme avec des compétences en tout genre, qui sait se battre, qui tue des gens sans scier, qui est aussi super bien foutue, mais aussi très forte en échec, car c'est pas une bécasse. Oui, car Luc Besson s'est dit marre du cliché des mannequins décérébrés. Celle-ci sera intelligente et maligne. Ha ! Alors sur le papier, c'est peut-être une bonne intention. Mais quand la réflexion ne va pas plus loin au niveau de la construction du personnage, bah évidemment, tout s'effondre. Car je vous ai déjà parlé des héroïnes écrites sur post-it. Il y en a des tas dans le cinéma. Et en voilà encore une. Tellement bien écrite que son comportement est parfois incohérent. Elle jongle entre son sang-froid d'assassin et son désir de liberté. Elle nous fait le grand écart permanent. On alterne donc entre des scènes de combat, assez nazes, hein, le film il a 10 ans de retard à ce niveau, où elle abat des gens, et des scènes où les larmes aux yeux, elle réclame sa liberté. Le tout sans aucun liant. La mayonnaise ne prend absolument pas. Et Besson voulait nous montrer une femme indépendante. Comment nous le faire comprendre ? En passant par
sa sexualité. Car notre belle Anna est officiellement en couple avec une mannequin française, mais se tape son contact masculin au KGB et son contact masculin de la CIA. Sans aucun attachement émotionnel, sans aucune alchimie, sans raison. On n'y croit pas un instant et ça n'apporte rien à l'histoire. En fait, elle traite tellement mal sa copine qu'elle passe pour une sacrée connasse, et non une femme libre de ses choix sexuels. Mais je suppose que son scénariste devait trouver ça cool. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire sur Anna ? Qu'elle est finalement un personnage faussement subversif, une fausse super-héroïne, soi-disant badass et intelligente. On suit sa quête de liberté d'un œil distrait et surtout agacé par la très mauvaise réalisation de ce film. On est en 2020, bordel de Dieu ! Des femmes agents super secrets, super belles, super fortes, c'est bon, on en a vu quelques-unes. Il serait bon maintenant de les construire, de leur faire jouer un rôle intéressant, de les mettre comme personnages centraux d'histoires prenantes où toutes leurs compétences seraient mises en avant. Je veux dire, pas une tueuse russe dont la super compétence est de mettre une perruque différente à chaque mission pour pas qu'on la reconnaisse, alors que sa jolie tronche s'affiche en 4x3 pour L'Oréal. Et je suis fatiguée là, vraiment. Je me donne du mal, je me fais même du mal pour vous. Je vous le confesse, je savais à quoi m'attendre, je connais le bestiau maintenant, je connais sa vision des femmes. Je pensais être tout de même un peu amusée par tout ça, mais finalement non. Je suis naze, je suis agacée. Encore un perso féminin de merde dans un film pourri. Et je pourrais vous faire une seconde chronique sur le film en lui-même, tellement il y a de choses qui ne vont pas. Mais allez, ne nous quittons pas de mauvaise humeur. Et pour aller jusqu'au bout de la blague, on écoute le groupe russe Tattoo avec All the Things She Said.
cette chronique bande dessinée, j'ai eu envie de faire plaisir à Romain. C'est lui qui, après une discussion forcément passionnée autour de l'excellente série Tyler Cross, de Fabien Nori et Bruno avec un tréma sur le U, m'a parlé le premier de leur, comment dire, appelons-le making-of de la série Vintage and Badass, une œuvre cinématographique, en deux mots sinon on ne comprend pas, qui revisite leur panthéon du film noir, du film policier, du film de gangster, bref, de ces films de genre que je ne sais pas vous, mais moi je les aime bien. Cet ouvrage a l'avantage d'être à la fois très érudit, synthétique et stylé, tout en étant joliment illustré. Il a en revanche l'inconvénient de vous donner envie de voir tout plein de films qu'une simple période de confinement de 2 mois ne suffira pas à combler. Eh bien, figure-toi, Romain, que les deux compères viennent encore de sévir aux éditions d'Argo. Ah oui, c'est là que je dois dire aux auditeurs qui nous écoutent d'aller chez leur libraire préféré récupérer tout Nuri et Bruno qui est édité pour l'essentiel chez Dargo. Donc, nos deux compères viennent encore de sévir et c'est pour notre plus grand plaisir à tous. Déjà, avec le personnage de Tyler Cross, on se doutait qu'ils aimaient les profils sombres, noirs et anguleux. Et bien là, on va être servi. Alors, de quoi est-il question dans cette bande dessinée? Un indice, écoutez bien.
I got a military-age male on a cell phone watching the convoy, over.
If you think he's reporting troop movement, you have a green light. Your call, over.
Maybe he's just calling his old lady.
He stepped off. Hold on, I got a woman and a kid 200 yards out moving towards the convoy. Her arms aren't swinging. She's carrying something. Yeah, she's got a grenade. She's got an RKG Russian grenade. She's saying to the kid.
You say a woman and a kid?
You got eyes on this? Can you confirm?
Negative. Your call.
They fry you if you're wrong.
Vous avez peut-être reconnu, pour peu que vous ayez l'oreille cinéphile et anglophile, la bande-annonce du film de Clint Eastwood, American Sniper. C'est en faisant des recherches sur ce film qu'ils ont décidé de réaliser une bande dessinée sur le bonhomme. Bon, le bonhomme, c'est pas Clint Eastwood avec ses 90 bougies, mais c'est un héros de l'Amérique, un Rambo des temps modernes. Le film retraçait donc la vie de cette personne, héros typique made in United States of America. Un homme qui a vécu par les armes et qui a péri par les armes. J'ai nommé Chris Kyle. La bande dessinée, justement sous-titrée « Une légende américaine », s'intéresse au portrait d'un sniper des Navy SEALs, vétéran de la guerre d'Irak, glorifié pour avoir à son palmarès 160 cibles confirmées, dépassant par là même une autre légende, plus particulièrement hollywoodienne, Audie Murphy, qu'à n'en pas douter, Nuri et Bruno connaissent bien. Ce même Audie Murphy a collecté quelques 33 médailles pendant la Seconde Guerre mondiale et ne s'est lui jamais totalement remis des erreurs de la guerre. A priori, si j'en crois cette excellente bande dessinée de non-fiction, ça devient quand même un peu long à dire, ce n'est absolument pas le cas de Chris Kyle. Lui a flingué à tout va avec une rigueur professionnelle et staccanoviste, un comble pour un mec de droite, avant de retourner au pays, vivre une grande histoire d'amour et faire fructifier sa légende à coups d'agences de sécurité, de livres best-sellers et d'aide aux victimes de PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Une aide forcément étrange, puisqu'il leur offrait des séances de tir pour on ne sait quoi, avec tout plein d'armes de calibre impressionnant. Peut-être qu'il entendait leur permettre de se défouler, d'oublier ou de se remémorer. Enfin, il aurait peut-être dû demander conseil à un psy, surtout que ça aurait pu lui sauver la vie. Parce que figurez-vous qu'il va croiser dans le cadre de cette aide Eddie Ray Rouse, un vétéran comme lui, mais avec moins de médailles et plus de problèmes. C'est la rencontre de celui qui a un flingue et de celui qui creuse, surtout à Haïti, comme le soulignent nos deux bédéistes investigateurs. L'homme qui tua Chris Kyle, c'est le titre de cette bande dessinée. C'est aussi un hommage à l'homme qui tua Liberty Valance. Et c'est surtout l'histoire des États-Unis d'Amérique. Le pays est prompt à forger des légendes. Il est aussi tout prompt à les désinguer. Mais il n'en a cure, car dans l'intervalle, d'autres feront fructifier l'image de la légende en un capitalisme galopant. Les deux auteurs qui nous baignent dans un récit très cinématographique avec plein de références du genre en ont oublié une, même si elle a sûrement toujours été dans leur esprit. Vous voyez laquelle ? Rappelez-vous, mon nom est personne. Vers la fin du film, le personnage de Terence Hill dit à celui d'Henry Fonda « Tu rentreras dans les livres d'histoire. » Et l'autre de lui rétorquer « Et pendant que tu auras le nez dans les bouquins, moi je serai là-haut. » Eh bien, c'est l'histoire résumée de Chris Kyle. Dans le livre de Nuri et Bruno, elle est très bien racontée avec le prisme des auteurs et avec un découpage par personnage emblématique du récit, dont la femme de Chris, Taya Kyle, une femme à poigne qui sait ce qu'elle veut pour elle et ses enfants. Et le tout sous le filtre de la télévision américaine avec un présentateur mielleux à souhait. Dans cette bande dessinée, on retrouve toutes les peurs, les phobies, les croyances et les espoirs d'un pays. C'est affolant, mais on ne peut s'empêcher de penser que ce genre de récit nous aide, nous, à comprendre ce que sont les États-Unis. Parce que bon, si vous voulez comprendre l'état d'esprit des soldats mentalement fracassés par les nouveaux conflits, faudrait peut-être plus que American Sniper privilégier Des mineurs de Catherine Bigelow ou Un jour dans la vie de Billy Lynn de Ang Lee, qui sont, à mon avis, bien plus empathiques. L'homme qui tua Chris Kyle de Fabien Nuri et Bruno, c'est chez Dargo et c'est vraiment bien. Avec eux, vous n'entrerez peut-être pas dans les livres d'histoire, mais vous aurez une sacrée histoire de l'histoire. Alors Romain, tentez.
toujours en Radio G, Imaginaire est toujours aux Utopiales aujourd'hui et nous avons le plaisir de pouvoir interviewer Katie Stewart avec un D d'ailleurs. Tu es une autrice à multiples casquettes puisque tu fais de la poésie, tu es poétesse, tu es novelliste, tu es directrice de rédaction pour la revue Galaxy qui est une des grosses revues et c'était des éditions dédiées à l'Afrique. Tu fais de la fiction radiophonique, tu es psychologue clinicienne et tu es dans l'université de la pluralité.
Je suis la présidente, c'est bien
présidente.
Ça.
Présidente, oui, j'ai eu un doute, mais suite à la conversation tout à l'heure. La première question que j'ai pour toi, c'est surtout la plus importante. Comment es-tu arrivée à l'écriture ?
Quand j'étais petite, mes parents avaient toujours un livre. Dès qu'ils en avaient l'occasion, ils lisaient. Mm-hmm. Donc j'étais très pressée de pouvoir lire aussi, et aussi écrire pour écrire des livres.
D'accord.
Et donc c'est ce que j'ai fait dès que j'ai pu.
D'accord.
Et donc j'écrivais des trucs.
Ensuite, logique, t'as été initiée à ça et tu l'as fait.
Oui, et vraiment, c'était écrire pour écrire.
D'accord.
Et j'ai découvert le plaisir d'écrire, d'explorer les idées par les mots. Mmh. Puis j'ai eu des périodes de ma vie où j'ai eu besoin de mots, des choses qui arrivent. Les parents qui divorcent et personne ne vous dit rien. On a besoin de mots, on les cherche et on les trouve. Enfin, voilà, des moments un peu compliqués pour lesquels il faut des mots. Et je pense que ça a été un recours quasi automatique. Ça va pas, j'ai besoin de mots. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire de la poésie.
D'accord.
Des émotions, ça peut être quelque chose de très, très, très envahissant. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça s'appelle? Comment on essaie d'épingler ça? Ben, c'est par les mots.
Donc c'est un exutoire pour toi?
Plus que ça. C'est une façon d'apprendre le monde. Oui, vraiment.
On a vu tout à l'heure que tu multiplies les casquettes de la littérature. Et justement, la première question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a une grosse différence entre ce que tu cherches à faire sur ces différents médias? Je parlais tout à l'heure de ton livre « Confession d'une séancière » chez Mu Édition, où c'est un recueil de nouvelles intercalé avec de la poésie. Est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences sur les messages que tu cherches à faire passer? Et est-ce que le public est le même à chaque fois?
Alors, je m'en fiche du public quand j'écris, mais vraiment, complètement, je suis toute seule, je fais mon truc. Mmh. Donc, il n'y a pas de message, puisqu'il n'y a pas de récepteur. Il y a juste une exploration d'idées. Je fonctionne avec les idées. Alors, je sais qu'il y a pas mal d'auteurs qui fonctionnent avec les images. Moi, je n'ai pas d'images. J'ai des idées, j'ai des concepts autour desquels j'essaie de tourner avec mon moyen préféré, qui sont les mots. Donc, il n'y a pas de grosse différence dans l'intention, qui est d'essayer de comprendre des choses et si possible de partager ma compréhension dans l'espoir qu'on m'en donne d'autres pour encore nourrir la machine. Mm-hmm. Donc c'est toujours la même chose écrire, mais pareil quand j'écris un travail universitaire, c'est la même chose, c'est vraiment la même démarche. Après, écrire de la poésie, je l'ai fait sans méthode. Écrire une nouvelle, ben on apprend au fur et à mesure parce qu'on a des lecteurs, parce qu'on a des éditeurs et parce que ça peut devenir plus méthodique, surtout en science-fiction. Mais c'est la même démarche. Pour moi, c'est vraiment la même démarche. La poésie, j'avais laissé tomber de côté depuis très très longtemps. Tiens, tomber de côté, c'est rigolo. J'avais laissé tomber pendant un moment et c'est l'ICAM qui m'a dirigée sur ce livre-là, qui a trouvé que c'était une évidence d'avoir ce qu'elle appelle les incantations. Qu'elle m'a demandé. Et ma première réponse, comme souvent, ça a été non. Je dis non assez facilement. C'est un pouvoir de dire non. Donc j'ai dit non. Et elle m'a dit, bah, écoute, réfléchis-y. Donc il y a un cerveau là derrière qui s'est mis à réfléchir tout seul là-dessus. Et un samedi soir, donc, oui, je m'en souviens, j'ai pris des feuilles bleues. Et j'ai écrit les 16 poèmes qui sont là et qui n'ont pas bougé depuis, qui sont à la bonne place et directement, parce que bah, ils devaient déjà être là quelque part. Donc voilà.
Ça va, alors je me fais une petite parenthèse, mais ça fait plusieurs fois que tu parles de l'ICAM que je connais et que pas la seule en connaît, mais pour les auditeurs, qui est l'ICAM, surtout pour toi?
Alors l'ICAM, c'est d'abord quelqu'un que j'admire énormément. Et je rêvais vaguement de travailler avec elle, mais je ne savais pas trop comment. On est plein à lorgner sur le Organic Edition, qui sont des livres magnifiques, rares. Mais bon, un espoir vague. Et en fait, l'ICAM a été ma directrice littéraire chez Mu pour ce livre-là. Donc on l'a travaillé ensemble. Et ça a été vraiment un apport très très précieux, puisqu'on a travaillé de manière particulière. On a même eu un moment où on a lu l'ensemble du texte à haute voix. de A jusqu'à Z, mmh. pour l'entendre et pour le vivre oralement. Et je pense que ça se sent quand on le lit. Essayez de le lire à haute voix, ça marche aussi. Et ça, c'est nickel.
D'accord.
J'ai dit qui elle était et elle écrit.
C'est la partie.
Elle écrit moi, aussi, donc des livres très beaux. Là, elle vient d'écrire Résolution chez La Volte, mm-hmm. qui explore le regard d'une personne neuroatypique. Donc on n'a rien d'autre qui ressemble à ça. Et en fait, chaque fois qu'elle fait un livre, on n'a rien d'autre qui ressemble à ça, et c'est absolument génial.
Donc là, on a parlé de tes supports manuscrits, mais tout à l'heure, j'ai annoncé que tu faisais des fictions radiophoniques.
Alors, il y en a une, juste une, et c'est la première fois, et c'est une expérience absolument extraordinaire. J'adorais ça, les fictions radiophoniques, quand j'étais gamine, et j'ai même pas osé rêver en faire. J'ai pas cherché à en faire, parce que je n'y avais jamais pensé. Et en fait, c'est vraiment le milieu SF, où on se connaît, où on parle les uns des autres. Et c'est Olivier Girard qui a donné mon nom à Stéphane Michaka, qui est un auteur qui fait des fictions radiophoniques et qui voulait proposer à France Culture une collection science-fiction. Et qui a demandé à Olivier, mais c'est qui les gens maintenant ? Qui faut lire ? Qui ferait ça ? Et Olivier a pensé à moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'était une très très bonne idée. Parce que j'avais jamais écrit de fiction radio et j'ai appris à écrire une fiction radio. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Et j'étais toute contente d'apprendre à écrire pour un nouveau média et je n'ai pas encore entendu ma fiction. Elle sera sur France Culture le 7 décembre au soir et je la découvrirai en même temps que tous les auditeurs et ça va être bizarre.
Et donc ça veut dire que c'est une fiction que tu écris et des personnes vont la lire à la radio ?
Pas du tout. Ça a été réalisé. C'est une fiction avec des acteurs qui jouent les voix, mmh. avec des bruitages pour l'ambiance. Donc elle est mise en scène et elle est jouée et elle a été écrite avec les dialogues et tout quoi. Et ça j'avais jamais fait. Ça s'écrit un peu comme du théâtre, mais vraiment en mettant l'accent sur ce qui s'entend. Et on n'écrit pas comme ça naturellement. Il y a des choses qui sont très littéraires, qui passent pas du tout en radio. Il faut que ça fasse naturel. Un dialogue entre une jeune fille et sa famille, il faut que ça ressemble à un dialogue entre une jeune fille et sa famille. Pas juste on l'imagine parce qu'on l'a lu, mais qu'on l'entende vraiment, qu'on le vit vraiment. Et c'était très particulier.
D'accord. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette...
Oui, alors... Une particularité quand on écrit pour la radio, c'est qu'il faut donner le titre très tôt pour pouvoir enregistrer l'œuvre et qu'elle existe et qu'on ait le contrat de commande. Et en général, moi, je mets mes titres à la fin. Les confessions d'une séancière, bah, c'est même une proposition de l'ICAM à la fin parce qu'on n'avait pas de titre. Et ça me paraissait logique. Et donc, j'ai donné mon titre qui s'appelle Eugénie Grandi. Parce que j'avais envie de travailler sur l'humanité augmentée, mmh. et que Eugénie comme prénom, eugénisme, etc., je trouvais ça logique, mmh. et Eugénie Grandi pour le clin d'œil, et c'était suffisamment ouvert pour pouvoir écrire et éventuellement modifier mon idée de départ au fur et à mesure, donc pas perdre cette liberté dont j'ai absolument besoin. Et avoir un titre qui me plaît, qui me porte, et ça a tenu, je l'aime encore, donc ça devait être le bon. Donc ça parle d'une jeune fille qui, comme toutes les adolescentes, se demande « qu'est-ce que je suis ? Qui je suis ? Qu'est-ce que je vais devenir ?» Sauf qu'elle a quand même des capacités un peu étranges hein, et un peu surhumaines, mmh. alors qu'elle est dans une famille ordinaire, et donc les questions sont encore augmentées, comme elle. Et voilà, ça part de là. Et elle a un destin particulier. Il y a une réflexion, évidemment, sur ce que c'est être un être humain augmenté, mais pas que. Il y a des références à Octavia Butler, que j'ai beaucoup lu ces derniers temps. Donc je me nourris vraiment de ce que je lis sur le moment. Sur l'idée de cyborg, mais au féminin. Voilà. Et donc, je crois que c'est intéressant.
J'en doute pas du tout. On va partir sur une autre ficelle qu'il y a dans Confession d'une séancière, qui est celle du langage. Tu écris sans souci, mais parfois on retrouve du créole dans les langues. Qu'est-ce que c'est pour toi cette langue?
Alors, le langage pour moi, comme je disais, c'est une façon de m'approprier le monde qui m'entoure. Et jouer avec le langage, c'est jouer sur les perceptions et c'est jouer sur tout un tas de choses. Mon objectif, quand j'ai fait Confession d'une séancière, alors c'était pas d'offrir au monde un texte de fantastique exotique. C'était pas du tout ça, même si ça a été reçu comme ça, hélas. C'était de revisiter les souvenirs que j'avais des contes et légendes que j'entendais quand j'étais petite aux Antilles. Tout en étant coupée de la culture antillaise, ça fait partie de mon histoire. J'ai cette tronche, mais je ne mangeais pas de porc quand j'étais petite. J'étais sur une île, je ne mangeais pas de fruits de mer, je ne participais pas du tout aux festivités traditionnelles. Donc la culture antillaise, c'était quelque chose que j'observais d'un œil étranger. Mais j'ai entendu des choses et j'ai retenu quelques histoires, quelques personnages particuliers, quelques créatures. Et j'avais envie d'y revenir. Mmh. Savoir en quoi je suis antillaise. Et donc ça ne peut pas être juste une apparence. Ça ne peut pas être juste un lieu de naissance. C'est quelque chose d'une culture. Moi, quand je n'ai pas quelque chose, je le fabrique. Donc j'ai fabriqué quelque chose à partir des petits morceaux que j'avais. Quand j'ai commencé à écrire ça, j'ai ouvert une boîte qui était la petite boîte dans laquelle j'ai rangé les petits trucs que je ne comprenais pas ou qui était sympa ou qui faisait peur et qui était intéressant. J'ai rouvert cette boîte et avec cette boîte, il y avait le créole que j'entendais, qu'on parlait très peu à la maison, mais que j'entendais, que je comprenais, que je savais lire. Mmh. Et c'est revenu assez naturellement, des expressions comme ça qui sonnent plus justes en créole quand on raconte ces histoires-là parce que ça va avec. Et c'est un tout. C'est pas du langage par hasard pour faire joli. C'est vraiment... quand je dis « bon Dieu, Saint-Yen », c'est pas la même chose que dire « oh mon Dieu, Seigneur ». C'est pas la même chose. C'est quand on dit « bon Dieu, Saint-Yen », on voit la grosse dame qui est devant chez elle. Il y a tout ce truc qui se déploie et qui fait partie de cet imaginaire-là. Et ça me paraissait inconcevable de le mettre comme ça en français parce que ça enlevait quelque chose à la langue.
Le titre, séancière. Qu'est-ce que c'est une séancière?
Alors, la séancière, on pourrait simplifier en disant c'est une sorcière des Antilles. C'est pas exactement ça. Une séancière, c'est quelqu'un qui fait des séances de. Et de, ça peut être du vaudou, ça peut être de la divination, comme je vais vous faire tout à l'heure. Ça peut être un soin de guérison par les plantes, tout simple. Ça peut être tout ça. Et ça recoupe l'idée de sorcière, mais pas exactement. Après, les sorcières, on sait que ce n'était pas des choses très définies non plus. Quelqu'un qui connaît les pouvoirs des plantes est une sorcière. Quelqu'un qui donne des conseils aux jeunes femmes pour les libérer, c'est une sorcière. Donc, c'est un peu cette idée-là. Et ça ancre vraiment le mot dans ces Antilles imaginaires. Et vraiment, j'insiste sur imaginaire. Parce que je ne sais pas si ça existe, ce que je raconte là. Je ne sais pas si vraiment ces Antilles-là existent. C'est mon imaginaire.
Est-ce que tu as des projets là, d'écriture?
J'ai toujours des projets d'écriture. J'ai en moyenne 50 textes en cours en même temps.
D'accord.
Je ne travaille pas sur les 50 en même temps. Là, je suis en train de finir ma nouvelle pour l'appel à texte de la Volte sur la santé.
D'accord.
Au départ, je ne comptais pas le faire, puis j'ai une idée qui m'a paru sympa, donc j'explore ça, je m'amuse bien. Et puis, je travaille sur un prochain livre chez MU. Donc, on m'a souvent demandé à quand un deuxième tome des Confessions d'une séancière. Eh ben, pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que cette réception d'exotisme qui me hérisse.
D'accord.
Je pense qu'il y a autre chose dans ce livre, qu'il y a des réflexions sur notre monde, qu'il y a des choses qui sont valables pour des gens qui ne sont pas dans les îles. Et ça passe pas, donc je vais reprendre mon écriture habituelle et donc je travaille sur un texte post-apocalyptique biblique.
Oh, intéressant. On passe au portrait chinois.
Allons-y.
Tu es sur une île déserte, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment, mais tu as le droit à 5 livres sur cette île déserte. Qu'est-ce que tu emporterais?
Un calepin pour écrire, comme ça j'inventerai toutes les histoires que je veux.
Tu bottes en touche, mais ça passe. Dans tout ce que tu as lu, vu ou vécu, un monde où vivre, est-ce qu'il y en a un qui te plairait?
J'y suis déjà. Dedans ma tête. Des mondes dans les bouquins, pas forcément. Il n'y a pas beaucoup de livres dans lesquels je me sentirais bien. C'est, surtout en science-fiction, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour moi. Mais j'ai pas besoin d'un vrai décor. J'ai pas besoin de tous ces paysages, tous ces mondes qu'on invente très très détaillés. Un monde fait d'idées, moi j'aime bien. Peut-être que je serais une bonne candidate pour être connectée directement dans le réseau avec les mots, les trucs et exit le monde matériel, mais c'est de la science-fiction.
Donc, notre association est extrêmement riche, il faut le savoir. Et nous avons la possibilité de t'offrir une œuvre d'art, n'importe laquelle.
Dernièrement, j'ai dépensé une somme que mon banquier n'approuve pas pour une gravure devant laquelle je suis restée en arrêt. Je suis incapable d'en parler, je n'ai pas le vocabulaire pour dire ce que ça me fait, mais je suis restée là et j'étais déjà prête à débourser autant qu'il faut pour avoir ça. Et je l'ai à la maison, donc je n'ai plus besoin de rien, tout va bien. Donnez-moi l'argent, je verrai.
Ok. On te donne la possibilité de parler avec une personne, n'importe qui, existant ou non, vivant ou non. Qui ? Et pour lui dire quoi ?
Ça peut être là, tout de suite, on parlait d'Octavia Butler tout à l'heure, que j'ai pas mal lu, que je redécouvre et que je pense que le monde devrait redécouvrir là maintenant. Et peut-être je discuterai avec elle, mais j'ai pas encore tout lu. S'il manque des choses, peut-être je discuterai avec elle. Ou alors avec mon chat, Titi Schrödinger, qui est mort. Et avec qui on avait un langage qui était juste à nous. Et après coup, je me dis, mais ça se trouve, ce que j'entendais, c'était pas du tout ça. Donc si on avait la possibilité de discuter, j'aimerais bien vérifier si on s'est vraiment compris ou si on avait vécu des vies parallèles de manière tout à fait accidentelle et que c'était juste une histoire de croquettes ou une histoire d'amour, je ne sais pas.
Notre interview touche à sa fin. Comme je te disais, c'est toi qui choisis la musique qui va faire la suite. Alors, qu'est-ce que tu veux entendre ?
Alors, c'est drôle, je fais des associations d'idées assez étranges. Je pense à Octavia Butler et j'ai envie d'écouter Nina Simone. Et j'ai envie d'écouter un morceau que j'ai entendu récemment encore et que j'écoute de temps en temps. C'est son interprétation de Feelings à Montreux 1976, qui est mon année de naissance, et qui est vraiment quelque chose de bouleversant. Où elle parle de cette chanson, elle s'arrête, elle chante. C'est extrêmement émouvant. Donc Nina Simone, Feelings, Montreux 1976.
Merci. C'était un plaisir de t'avoir sur Radio Géo 101.5. Feeling. Nothing more than feelings. Feelings. Nothing more than feelings. Feelings of love, you know that. Okay, as a robot gets herself together and we do it and we get to the middle where we have forgotten our feelings of love, you will help me, huh? Teardrops falling down on my face, trying to forget all my feelings of love. God damn. I mean, you know, what a shame to have to write a song like that. Feelings, I'm not making man fun of the man. I do not believe the conditions that produced a situation that demanded a song like that. Well, come on, clap, damn it. What's wrong with you? For all my life, I've
feel it. I wish I'd never seen it. It can't possibly come again.
101.5 FM.